Donc nous poursuivons avec une analyse des logs de consultation d'Internet dans le libre accès à la BPI, étude qui doit nous amener à nous poser la question de ce qu'apporte le Big Data aux bibliothèques. Alors, c'est une étude qui a été menée avec un partenariat de recherche avec Télécom Paris Tech. Malheureusement, la configuration que vous avez présente ici n'est pas celle initialement prévue. Donc, Dana Diminescu et Quentin Lobé ne sont pas avec nous et Christophe Evans va se faire un plaisir de les représenter.
Merci. Alors, merci Christelle. Je ne sais pas si je vais les représenter à proprement parler parce qu'ils sont irremplaçables l'un et l'autre, mais vous aurez sans doute l'occasion de les entendre dans d'autres contextes. Ils ne pouvaient vraiment pas, là, malheureusement, être présents au début de l'après-midi. Muriel reviendra d'ailleurs sur le partenariat que la BPI a engagé avec Télécom Paris Tech. Et avec ce binôme entre une sociologue, Dana Diminescu, spécialiste des migrants, de la question des migrants connectés, des I et de l'I diaspora, et Quentin Lobé, qui est un élève ingénieur qui nous a aidé donc à faire l'ascension du big data ici à la BPI. Voilà. Donc il a déjà été question au cours de la matinée. Très rapidement des accès à Internet gratuits dans les bibliothèques publiques. Vous savez que la BPI, évidemment, participe à cet effort hein, de rendre accessible un Internet public dans ces espaces. Hein. C'est un petit peu autour de ces questions que nous allons intervenir avec Muriel. Pour introduire très rapidement les choses... voilà, je vais resituer un petit peu le contexte. À l'occasion d'une modification justement de notre service d'accès à Internet dans les espaces de la bibliothèque sur les postes informatiques de la BPI, hein, je précise bien sur les postes informatiques de la BPI, je ne parle pas de l'Internet via le Wi-Fi qui est possible également à la BPI. La direction de la bibliothèque hein, a souhaité suivre la façon dont ce service allait trouver ses usagers. Et c'est également mis en demeure d'essayer d'en savoir un peu plus sur ces usagers et sur le service que la bibliothèque leur rend. Voilà, donc Muriel et moi, on a confié une mission d'observation et d'études au service études et recherches que nous représentons Muriel et moi, et nous allons rendre compte des premier résultat de cette recherche hein, qui porte essentiellement, là, vous allez le voir, sur les traces numériques de consultation d'Internet au sein de la bibliothèque. Voilà, je précise un certain nombre de choses. Donc, quand on parle de big data, hein, ce qu'on pourrait littéralement traduire par macro-données, hein, on fait référence effectivement à tous ces parcours numériques qui sont enregistrés par les machines, par les ordinateurs, et qui permettent effectivement de savoir qui donnent la promesse hein, de savoir ce que font les individus avec les outils numériques, avec les interfaces numériques, avec le Wi-Fi, en accédant à des ressources électroniques, en contribuant sur les réseaux sociaux numériques. C'est vrai qu'aujourd'hui, le big data nous donne la promesse de disposer de gisements de données considérables qui, logiquement, devraient permettre de savoir ce que font les gens. Donc, devraient nous renseigner un peu sur les usages. Voilà, nous, on a placé l'éclairage sur l'Internet à la BPI. Hein, on va vous dire dans quelles conditions techniquement et matériellement, pour interroger un service qui, maintenant, est quand même considérablement répandu dans les bibliothèques de lecture publique et au-delà. Hein, on a parlé d'espace numérique au cours de la matinée, mais c'est vrai aussi pour les bibliothèques universitaires. Quelle est la part du ludique? Quelle est la part du pratique? Quelle est la part du documentaire dans cet Internet public gratuit? Voilà un peu les questions qu'on pouvait se poser. Et je reprendrai à mon compte une formule qui a été utilisée par Anne Krebs, qui est la directrice de l'Observatoire des publics du Louvre, qui disait la chose suivante. Le big data, ce sont d'énormes ressources, d'énormes données, mais aussi d'énormes problèmes. Et je pense qu'on va pouvoir vous montrer à quel point, effectivement, ça peut être problématique.
Oui, alors avant de rentrer dans le nœud des problèmes, une remise en perspective de l'Internet public à la BPI. Alors c'est en juin 1995 que pour la première fois la BPI propose un accès public à Internet avec 5 postes de consultation à l'époque. Les premières enquêtes qui s'intéressent au public cible en font le portrait suivant. C'est un homme, il est jeune, il est bachelier, il fréquente la bibliothèque et utilise les collections imprimées. Alors à cette époque, mi-années 90, jusqu'à la fin des années 90, on est dans le versant qu'on pourrait appeler extatique de cette nouvelle technologie, sur le versant de l'innovation. Assez rapidement, on va, quand on est en bibliothèque, est-ce qu'on se propose de donner accès à Internet, se situer entre l'extase et l'effroi, pour reprendre le titre d'un dossier de manière de voir de l'époque, parce que l'effroi, ou du moins les controverses, ont rapidement occupé le terrain des discours professionnels dans la décennie des années 2000. Il s'agit pour les bibliothèques de s'interroger sur le périmètre ou pas d'un filtrage de cet objet qui ne lui appartient pas, dont elle n'est pas propriétaire. Les discours à l'époque sont de diverses natures, portent à la fois sur le caractère documentaire ou pas d'Internet, il en a été question, mais aussi sur le rôle d'accès à la liberté d'information qu'on peut avoir envie, bien sûr, de donner à l'usager. Il faut rappeler que dans cette époque, dans les années 2000, on est dans la période post-attentat du 11 septembre avec ce Patriot Act aux États-Unis qui élargit assez considérablement les conditions de surveillance de la consultation d'Internet. Alors dans les années 2000, le choix qui a été fait à la BPI, c'est de disséminer 50 postes d'accès à Internet dans la bibliothèque, d'en donner une durée d'accès limitée, 45 minutes à l'époque, et de limiter les accès à Internet par type de protocole. À l'époque, pas de mail, pas de messagerie, bon, pas de son audio ni vidéo non plus. 10 ans plus tard, dans les années 2000, l'offre de la BPI s'élargit, à la fois en offrant un accès Wi-Fi à l'Internet et en augmentant assez considérablement le nombre de postes pour un accès filaire, toujours dans un partage du temps de connexion avec une durée limitée, cette fois-ci entre 40 et 45 minutes. Alors le contexte de cette intensification de l'accès à Internet est celui dont on a parlé ce matin, de la fracture numérique avec tous les contours ambigus que peut accompagner cette notion. On peut signaler sur ce point d'ailleurs que certaines bibliothèques, notamment en Amérique du Nord, ont choisi d'aller plus loin d'ailleurs dans cette lutte contre la fracture numérique en prêtant par exemple des spots Wi-Fi à leurs usagers. Ça a été le cas à Toronto et à Chicago notamment. Peut-être dans cette parenthèse nord-américaine, on pourrait évoquer les problématiques actuelles dont se saisissent nos collègues américains qui s'intéressent en particulier actuellement sur la protection des données personnelles des usagers qui fréquentent Internet dans leur établissement à travers notamment cette initiative Library Freedom Project qui préconise l'utilisation dans les bibliothèques un relais Tor qui a même de garantir l'anonymat et aussi la protection des données personnelles des usagers se connectant à l'intérieur de la bibliothèque. Alors à cet égard, on peut rappeler qu'à la BPI, aussi bien l'accès à l'établissement que l'accès à Internet dans l'établissement se fait sans condition, de façon libre, anonyme et gratuit, bien sûr. Alors comme l'a évoqué Christophe, la bascule qui a initié pour le service études et recherches un retour sur ces analyses de l'Internet public à la BPI, cette bascule-là est en l'œuvre depuis le 7 avril dernier. Elle consiste en 3 points principaux. D'abord, elle consiste à augmenter assez considérablement le nombre d'accès filaires à Internet au sein de la bibliothèque. On passe de 80 à 180 postes. D'autre part, la durée de connexion qui était limitée jusqu'à présent ne l'est plus. Et donc le système de réservation des postes qui accompagnait ce partage de connexion n'est plus non plus. Troisième caractéristique, l'accès à Internet aujourd'hui à la BPI, c'est l'Internet public dont il va être question aujourd'hui, mais c'est aussi ce que l'on nomme joliment à la BPI l'autre Internet, pour rendre compte de l'accès à Internet tel que la bibliothèque en souscrit des accès payants. Donc c'est dans le cadre de cette bascule qu'en effet le service études et recherches a été saisi pour faire ce point sur qu'est-ce qui est consulté à la bibliothèque, pourquoi et quels sont les usagers. Alors une série de dispositifs ont été convoqués, à la fois des dispositifs classiques comme l'enquête, dont on va rendre compte Christophe à l'instant, et puis des dispositifs plus expérimentaux comme le data mining dont je rendrai compte ensuite.
Voilà, donc moi je vais essayer de faire le point là sur ce qu'on sait en gros là des usagers qui consultent ce service à travers nos enquêtes traditionnelles. On va voir qu'on dispose quand même d'un certain nombre d'informations, mais que ces informations trouvent leurs limites, hein, parce qu'elles manquent de précision et parce qu'elles sont aussi bornées par la question du dit cible dans les enquêtes, hein, qu'il s'agisse de questionnaires ou qu'il s'agisse aussi d'entretiens approfondis. Alors, sur la question des volumes d'abord, il faut savoir, d'après la dernière enquête de public réalisée à la BPI en novembre 2015, hein, on réalise une enquête barométrique tous les 3 ans, pour essayer de profiler un peu justement les usagers de la bibliothèque et essayer de suivre les évolutions, on voit que 60% des usagers déclarent utiliser le Wi-Fi au cours de leur visite, hein, donc 6 personnes sur 10. 50% viennent avec un ordinateur portable, connectable. 40% avec un smartphone, hein, donc on a vraiment affaire à un public connecté, sinon hyper connecté. Pour la grande masse des publics, hein, là j'en reste à un certain niveau de généralité, 5% des usagers, d'après l'enquête, déclarent venir avec le projet de consulter Internet sur les postes de la BPI. Alors, on pourrait se dire 5%, c'est marginal, hein, c'est minoritaire. 5%, quand on rapporte ça à la fréquentation quotidienne en données brutes de la bibliothèque, c'est 200 personnes par jour. Et c'est donc environ, si je fais une projection, 70 000 réservations à l'époque où on pouvait réserver donc les postes Internet pour une durée de 40 minutes par an. J'avance un petit peu, hein, sur les profils de ces usagers. Je vais vite. Alors, Muriel rappelait en gros quel était le profil moyen de l'usager d'Internet en accès libre à la BPI au milieu des années 90. Ça a beaucoup changé en fait au cours du temps, à mesure que le service s'est diffusé. Hein. Je reprends là ce que disait Pascal Plantard, hein, quand il parle d'une technologie émergente qui passe ensuite à une technologie qui va commencer à se diffuser socialement. Aujourd'hui, nous avons affaire, et là c'est plutôt les entretiens qu'on peut faire auprès des usagers qui nous le montrent, à un public qui ne ressemble pas du tout à notre public moyen, hein, général, on va dire, un public qui est moins étudiant, qui est beaucoup plus masculin, qui est tendanciellement plus âgé, qui est beaucoup plus souvent d'origine étrangère, qui est moins diplômé que le public moyen. Le service d'Internet en accès libre, à l'époque, quand nous avons lancé l'enquête au printemps 2016, on voit bien que le service a fidélisé un public assez particulier, hein, un public très assidu, qui revient parfois tous les jours ou presque, qui reste assez longtemps dans la bibliothèque. Un public avec un profil qu'on qualifie, nous, de désaffilié, hein, sachant que dans cette catégorie, on va placer des gens qui sont isolés socialement, des gens qui sont très âgés, des personnes retraitées, qui sont parfois un peu déconnectées à tous les sens du terme, mais aussi des personnes sans ressources, des personnes qui vivent en situation de précarité à la lisière parfois, des personnes sans papier, parfois des personnes sans domicile fixe et bien évidemment aussi des personnes en situation de migration. Hein. On voit que le service a parfois été accaparé par des personnes qui étaient issues de l'Europe de l'Est, mais aussi de l'Afghanistan, voire aujourd'hui de Syrie, d'Irak ou d'autres pays encore. Et pour les savoir-faire, effectivement, là, on a un public qui n'est pas non plus très homogène à proprement parler. Nous avons affaire parfois à des personnes qui sont assez expertes, très familières de l'usage des outils informatiques et du surf sur Internet, mais aussi, là, je pense aux retraités, par exemple, hein, des personnes qui sont beaucoup moins expertes et qui sont parfois en difficulté avec les technologies de l'information et de la communication. Voilà, donc on a des attentes, pour terminer sur ce point, qui sont liées notamment à un besoin d'Internet gratuit, parce qu'on n'a même pas nécessairement les moyens de se payer un accès à Internet dans un cybercafé. Donc on a affaire notamment à beaucoup d'usagers qui ne sont pas très assidus, qui ne sont pas équipés chez eux ou qui sont mal équipés. Sous-entendu, des gens qui ont un matériel qui est trop ancien, un matériel qui ne fonctionne plus, un matériel qui parfois bug et qu'on ne sait pas réparer. Et du coup, on va profiter de l'Internet qui est disponible dans une bibliothèque publique, ou qui parfois craignent aussi d'utiliser Internet chez elles. Agnès le rappelait au cours de la matinée, il y a aussi toute une symbolique de l'usage de l'informatique et de l'accès à Internet, et beaucoup de craintes sur ce qu'on pourrait trouver sur Internet, sur les traces qu'on va pouvoir laisser, sur ce qu'on pourrait se faire voler, prendre en allant sur Internet. Et la bibliothèque, du coup, procure un cadre public qui est assez sécurisant. Et ça c'est assez intéressant, bien évidemment, en termes d'analyse. Je ne vais pas plus loin parce que tu vas parler, toi, pour la suite des usages.
Oui. Alors, le point de départ de notre intérêt pour le data mining est assez simple. On s'est demandé si, finalement, on pourrait explorer toutes les données enregistrées quotidiennement sur le serveur d'accès à la BPI. Est-ce que ces données qui sont techniques, fonctionnelles, j'en ai ici reproduites quelques-unes sur cette diapositive, ce sont des données qui permettent tout simplement l'affichage de la page web sur l'écran du BPI Note, et bien ces données peuvent-elles fonctionner comme des traces de consultation ou comme des indices de projets d'usage de l'Internet à la BPI. Alors cette hypothèse de transformation d'une donnée technique en connaissance sur des comportements constitue précisément les travaux dans le domaine du data mining. Donc nous sommes rapprochés de spécialistes dans ce domaine, en particulier ceux qui travaillent à ParisTech, qui est l'Institut des sciences et des techniques de Paris. Nous avons établi une convention de recherche avec une équipe mixte de sociologues et d'ingénieurs, en l'occurrence Dana Diminescu et Quentin Loubet, que nous aurions aimé accueillir cet après-midi, pour explorer ce que l'on pouvait faire à partir de leur savoir-faire. Notre point de départ était donc le serveur d'accès Internet à la BPI, sur lequel nous découvrons, en travaillant avec eux, que près de 2 millions de lignes de log transite par jour sur les serveurs de la BPI. Alors, est-ce que ces 2 millions de lignes de log constituent autant de consultations du web? Alors, pas vraiment, puisque pour une page web qui s'affiche effectivement sur le poste du BPI Note, ce sont jusqu'à 5 lignes de log différentes qui s'inscrivent sur le journal de log et qui révèlent en fait le travail de la machine. Donc, il faut déjà commencer par nettoyer dans ce journal de log les lignes qui ne nous intéressent pas pour isoler les URL susceptibles de correspondre à des consultations réellement effectuées. Il faut également transformer ces lignes de log en une base de données de champs interprétables en dégageant l'URL du domaine consulté, je l'ai dit, mais aussi peut-être les tâches du poste de consultation, le jour, l'heure de la consultation, par exemple. Là, c'est tout l'aspect mining du data mining. Alors, le dispositif qui nous a été proposé par nos collègues de ParisTech est un dispositif, comme vous le voyez, qui fonctionne en 4 phases, dont seule la première est entièrement automatisable. C'est elle qui permet de passer des 2 millions de logs quotidiens à 250 000 lignes de logs seulement, analysables par jour. Alors, cette première phase est constituée par 3 briques logicielles issues du domaine du libre. Et ce sont à travers ces 3 briques logicielles que sont filtrées, nettoyées, agrégées ces traces pour constituer une brique d'interprétation de type consultation du web. Alors, à l'heure actuelle, ces briques logicielles ne sont pas encore complètement stabilisées. Une première version de cette application nous a été livrée en septembre dernier, qui nous a permis déjà de traiter 3 mois de log de mars à mai 2016. Et déjà, dans cette première phase, un certain nombre de problèmes, de questions nous sont apparus, qui nous ont permis d'avancer dans le projet, parce que s'il peut paraître à première vue assez simple d'éliminer de ce journal de log toutes les lignes qui concernent le fonctionnement de la machine elle-même, dans le détail, la frontière entre des traces volontaires, les URL demandées par le BPI Note, et les traces involontaires, celles qui sont dues au fonctionnement de la machine, cette frontière-là, en réalité, elle est très poreuse, comme on pourra le voir ultérieurement. C'est pourquoi dans ce schéma, vous pouvez voir une boucle rétroactive qui part de la phase 4 d'interrogation, premier travail sur les données, à la phase 1 qui vient améliorer les heuristiques programmables, elles, pour le nettoyage et l'agrégation. Deuxième ensemble de problèmes, de questions que nous nous sommes posées, c'est bien sûr comment analyser cette masse considérable de données, même si elle est nettoyée, filtrée. Donc aujourd'hui, nous vous proposons de partager avec vous deux angles d'analyse que l'on a conduit jusqu'à présent. Le premier consiste à comparer les sites web consultés par les BPInautes avec les sites web consultés par les internautes français en général. Alors, derrière cette comparaison, il y a cette hypothèse qui est de dire est-ce qu'il y a un effet bibliothèque qui pèserait sur les modalités de consultation de l'Internet. Pour réaliser cette comparaison, nous avons projeté des consultations BPI sur les 50 premiers sites les plus consultés selon l'analyse que mène mensuellement Médiamétrie, qui est donc un acteur reconnu de l'analyse d'audience d'Internet. Alors, ce qui frappe, bien sûr, dans ce graphique où apparaît en bleu les consultations issues de la BPI, c'est la surconcentration des consultations sur les deux plateformes Facebook et YouTube. Et de façon corollaire, une quasi-disparition de ce qu'on appelle dans le jargon des phénomènes de longue traîne, c'est-à-dire que tous les autres sites, hormis ces deux plateformes, connaissent des scores de consultation extrêmement faibles, voire sporadiques, à l'échelle du mois. Alors bien sûr, ces deux plateformes, YouTube et Facebook, constituent en elles-mêmes des espaces du web. Les contenus sont hétérogènes, les pratiques de consultation sont elles aussi très hétérogènes. À l'intérieur de ces espaces, il y a des phénomènes de surconsultation et des phénomènes de longue traîne, enfin tout un univers de pratiques que malheureusement nous ne pouvons pas analyser pour deux raisons. La première, c'est que ces deux plateformes recourent à un protocole d'accès sécurisé, les fameux HTTPS que vous connaissez peut-être. Deuxième raison, c'est que sans autorisation explicite de la CNIL, on n'aurait pas pu aller jusqu'à étudier l'URL effectivement déclenchée par le BPInaute. Donc aujourd'hui, ce que nous appelons unité de consultation dans notre travail, c'est le domaine, la concaténation, l'agrégation d'une URL domaine. Ceci étant, nous étions quand même tout à fait intrigués par la surconsultation que nous notions de ces deux plateformes et au-delà des GAFA, bien sûr, à la BPI. Donc nous avons tenté d'observer ces big data à la loupe, voire à la trace, comme vous allez le voir. Alors nous avons réalisé nous-mêmes un certain nombre de parcours de consultation sur les postes publics de la BPI dans le cadre des 40 minutes autorisées. Nous avons scrupuleusement noté tout ce que nous faisions et nous avons ensuite comparé nos carnets de bord avec les traces que nous fournissait notre application. Alors là, sans véritablement découvrir de scoop, nous avons quand même tout de même mieux compris à quel point les big data, c'est-à-dire ce recueil véloce, c'est-à-dire très rapide en continu, d'une masse de données très hétérogène, tout ce qui concerne les données de connexion, ces big data, elles profitent essentiellement aux big producteurs de données. Pourquoi ? Parce que nous avons pu observer un certain nombre de phénomènes, d'abord des phénomènes de surcomptage. Par exemple, dans un parcours réalisé par un de nos collègues de notre expérience, on a vu apparaître des lignes de log à Facebook, par exemple, alors qu'à aucun moment l'URL de Facebook n'avait été appelée. D'autre part, on a pu constater que plus les sites proposent une information gratuite relativement élaborée, comme les sites d'information par exemple, plus le volume de connexion était important et générait ce que nous avons appelé un certain nombre de requêtes en sous-marin, c'est-à-dire pas directement appelées par le BPInaute, mais que la plateforme elle-même utilise, alors la plupart du temps les gros, Google par exemple, Bing, etc. Donc, pour vous donner... donc ça a été le cas, on pourra y revenir sur les exemples. D'autres phénomènes inverses ont pu être observés, qui sont des phénomènes cette fois-ci de sous-comptage. C'est-à-dire qu'on a par exemple un rapport de 1 à 40 entre les consultations du Bon Coin et des consultations de CAF.fr, par exemple. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que pour 2 minutes de consultation du Bon Coin, on aura 40 fois plus d'occurrences du site Le Bon Coin que pour 2 minutes de consultation de la CAF.fr. Autrement dit, hein, pour des sites que l'on pourrait, les sites publics, hein, ils sont relativement vertueux et discrets et restent relativement conformes à la pratique du BPI-Note. Alors, évidemment que ces observations ne bouleversent pas les grands équilibres, hein, et ne viennent pas bouleverser, hein, les différences abyssales, hein, qui existent entre les différences de consultation d'un site à l'autre, mais peut-être que ces observations permettent de comprendre la modestie des consultations enregistrées, notamment par les sites publics, hein, parce qu'on comprend bien que ces sites publics, ben, développent des bases de données, développent des interfaces, des modes de présence sur le web, ben, qui sont très peu sensibles, voire insensibles à toute la logique de présence d'un marquage sur le web qui peuvent animer d'autres types de sites, bien sûr. Donc on comprend dès lors, hein, que les big data ne sont pas forcément pertinentes pour faire cette comparaison, on pourrait dire, hein, entre sites de toute nature, entre types de web d'ailleurs de toute nature. C'est pour ça aussi qu'en complément de ce premier angle d'analyse, nous avons essayé de ne pas nous laisser nous éblouir, hein, par ces surconsultations de Facebook et YouTube. Nous avons au contraire cherché à saisir une diversité qualitative des consultations en travaillant par niche. Et en particulier, nous avons travaillé sur deux segments que sont les sites de rencontres d'une part et les sites d'information non francophones d'autre part. En ce qui concerne les sites de rencontres, nous avons eu la surprise de voir se hisser dans le top des sites de rencontres consultés à la BPI, non pas des sites de rencontres mainstream comme Mythique, comme adoptunmec.com par exemple, mais des sites de rencontres plus marqués par la recherche d'endogamie, comme c'est le cas pour Inshallah.com ou Afro Introductions par exemple. Cette même surreprésentation dans les consultations de la BPI d'un intérêt porté à l'actualité non francophone, hein, qui recoupe les profils dont Christophe a parlé, cet intérêt-là, il est aussi observable dans le segment que nous avons constitué des sites d'information qui se trouvent hors domaine.fr ou hors domaine.com. Comme on peut le voir sur ce petit tableau qui regroupe un certain nombre de sites d'information en langue étrangère, on observe une vraie variété linguistique avec des communautés de très faible nombre de locuteurs, comme c'est le cas par exemple pour le site d'information en langue lettonne. Alors cette fois-ci, on s'est plus intéressé aux data XXL, mais plutôt aux XXS, on pourrait dire, ce qu'on appelle aussi les smart data, que le monde du data mining appelle ainsi, parce que cette fois-ci, on va vraiment construire les données de recherche sur la base de ce qu'on a recueilli, bien sûr, avec une hypothèse de recherche qui a pour objectif de contextualiser les données dans leur domaine de production. Nous avons utilisé les signaux faibles de cette diversité linguistique pour interroger notre base de données des logs BPI avec la question suivante: comment interroger notre base en ayant à la fois un site quand même très populaire et puis un site qui rende compte de la diversité linguistique qui semblait poindre dans nos premières expérimentations. Donc on a eu l'idée d'interroger les domaines locaux de Google. Vous savez que Google propose près de 240 domaines locaux. Et là, quand on exclut les domaines hors google.fr et .com, eh bien, on retrouve là, par ordre de consultation décroissante, à nouveau notre domaine en langue lettonne, venant confirmer là, la consultation de cette langue dans nos murs. Alors, pour comprendre un petit peu la présence inattendue de ces locuteurs laitons, on a examiné un certain nombre d'indicateurs, dont un indicateur européen qui mesure la pénétration des numériques au sein des pays de la communauté européenne. Il s'agit d'un indicateur qui s'appelle DESI, pour Digital Economy and Society Index. Et là, nous avons pu constater que la Lettonie, en effet, se place au 9e rang des pays européens en matière d'utilisation d'internautes d'Internet par les citoyens, alors que la France, par exemple, ne se place qu'au 17e rang pour cet indicateur. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire de tout ça? Ce qu'on peut peut-être dire déjà, c'est de, bon, l'analyse de l'Internet public à la BPI, bon, ici, se fait curieusement, hein, l'écho de pratiques numériques qui sont en fait extrêmement diversifiées au sein de nos publics étrangers et qu'il nous importe de recontextualiser finalement champ de langue par champ de langue, hein, exactement ces pratiques numériques sans céder peut-être à des généralisations hâtives. Alors, à ce titre, et pour conclure, on réalise que le recours au data mining pour analyser les logs de consultation en bibliothèque et à la BPI en particulier, peut-être venir compléter la connaissance en matière d'audience, mais aussi d'usage de l'Internet en France. Habituellement, l'audience, la mesure d'usage, est réalisée soit à travers des panélistes, hein, l'Internet à domicile, c'est une approche qu'on appelle user-centric, soit du point de vue des sites producteurs d'informations eux-mêmes, hein, dans une analyse dite site-centrique, eh bien, nous proposons une approche bibliocentrique qui a peut-être pour intérêt de montrer qu'il y a des usages du web peut-être différents dès lors qu'ils sont réalisés dans un contexte à la fois public et collectif comme celui d'une bibliothèque. Alors, il reste bien sûr difficile, hein, de généraliser, hein, cette hypothèse qu'il existe un effet bibliothèque qui pèse sur les consultations d'Internet, ne serait-ce que parce que pour nous, à l'heure actuelle, notre dispositif ne nous permet pas d'analyser les connexions Internet réalisées à travers le Wi-Fi de la BPI. On a bien parlé ici des accès filaires. Alors, par ailleurs, ce début d'analyse partielle des usages d'Internet public en bibliothèque ne permet pas non plus de trancher ce débat peut-être séculaire maintenant qui porte sur la valeur culturelle ou pas de l'Internet. Alors, à ce titre, il peut être quand même intéressant de constater que ce débat n'est pas non plus complètement tranché par nos concitoyens, si on en croit l'étude récente qu'a conduite Jean-Michel Guy sur les représentations de la culture dans la population française. On trouve un item pour lequel 47% des Français interrogés à l'item « Est-ce que surfer sur Internet, c'est culturel ou c'est pas culturel ?» Eh bien, pour 47% des Français, ça dépend. La représentation de l'Internet culturel ou pas est bien sûr contrastée, tout comme la représentation, on pourrait dire évidemment, des bibliothèques elles-mêmes. Pour un certain nombre de nos visiteurs, la bibliothèque, c'est le lieu de connexion privilégié, parfois le seul, comme l'a rappelé Christophe. Et puis pour d'autres, c'est peut-être un des rares lieux de déconnexion possible, voire un rempart contre la tentation d'une connexion en continu, comme le suggère le tweet que nous avons reporté sur cette diapositive. Nous vous remercions pour votre attention.
Donc le micro est là, vous devez avoir des questions. On a quelques minutes pour recevoir vos questions, commentaires.
Big perplexité.
Ou big digestion, je ne sais pas.
Bonjour. La consultation des ressources auxquelles la bibliothèque est abonnée apparaît dans ces logs? Par exemple, l'autre Internet dont vous parliez?
Alors, sur l'expérimentation qu'on a menée avec l'outil actuel qui portait sur les mois de mars à juin dernier, on a un mois, selon le mois de mai, qui constituait un temps pour la bibliothèque d'essai de l'élargissement à l'offre que j'ai décrite. Donc on a sur le mois de mai, en effet, aussi les consultations de l'autre Internet. Si on veut en dire quelques mots, c'est vrai qu'on était assez intéressés de voir que des consultations sur des sites comme Cairn, Percé, étaient au même niveau que Airbnb, par exemple.
Ce qu'on peut peut-être juste ajouter, mais c'est plus un petit point de méthode, c'est que là, le travail qu'on fait avec Télécom Paritech sur le développement de ce logiciel, hein, son affinage, va nous permettre aussi par la suite de disposer nous-mêmes, si tout va bien, de statistiques de consultation des ressources numériques payantes auxquelles la BPI donne accès à ses usagers sans passer par les statistiques fournisseurs.
Mais pour poursuivre quand même la réponse, l'autre Internet étant accessible par le Wi-Fi de la bibliothèque, on sera sur des données assez partielles.
Du coup, la question d'après, c'est est-ce que le logiciel en question permettra d'analyser les logs avec du Wi-Fi ?
Alors, l'application en elle-même, oui, c'est plutôt la disponibilité des logs sources elles-mêmes hein, qui, pour le moment, pose un problème. Voilà. C'est l'application en elle-même peut tourner sur tout type de...
Toute base.
Toute base de logs.
Oui, juste une question un peu à la marge. Vous avez évoqué 180 postes et sans restriction d'inscription une durée. Est-ce que vous avez étudié un changement de population et des bouleversements d'usage, surtout pas sur le nombre de postes, mais plutôt sur la restriction des durées de consultation ?
L'expérimentation a eu lieu au printemps dernier. Elle portait sur 5 semaines, donc on est sur une période qui est à la fois confortable mais aussi limitée dans le temps, avec effectivement des changements importants en ce qui concerne à la fois la structure des publics, mais aussi peut-être sur la structure des usages. Pour aller vite, on se rend compte que l'ouverture du service sans restriction comme ça sur la quasi-totalité de l'ensemble des postes de la bibliothèque, c'est pas la totalité, hein, mais c'est un nombre conséquent, permet de déségréguer un peu la structure des publics de l'usage d'Internet libre à la BPI. C'est-à-dire qu'il y a plus de mixité sociale, donc la pyramide des âges change, il y a un peu plus d'usagers jeunes, il y a beaucoup plus d'étudiants qui s'y mettent, il y a surtout beaucoup plus de femmes aussi qui s'y mettent. C'est-à-dire qu'on se rend compte que le service avait fidélisé, pour des raisons qu'on peut très bien expliquer d'ailleurs, à un public particulier, qui est un public qui avait des caractéristiques sociales très, 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 très typées, mais qui du coup faisait peut-être aussi par certains côtés écran à d'autres usages, d'autres publics. Je pense qu'il y a des étudiants qui devaient se dire aussi, ah ben ça c'est pas pour moi ce service-là. Il y a peut-être des femmes, des jeunes femmes notamment, qui devaient se dire, c'est pas pour moi cette file d'attente-là, ce type d'usage, c'est pas pour moi quoi. Cette communauté d'usagers n'est pas la mienne. Le fait de l'avoir ouvert très clairement, hein, donc ce qui est plutôt une réussite jusqu'à maintenant, puisqu'il y a un phénomène d'autorégulation qui semble avoir lieu, hein, on en est au début, hein, donc on continue à observer, a permis effectivement de cette déségrégation et par conséquent aussi de sans doute d'avoir une incidence, mais là pour le moment on peut pas faire toute cette analyse parce qu'on a toujours un train de retard sur l'analyse de toutes ces macro-données, modifie la structure des usages parce qu'aujourd'hui il y a des étudiants qui, même s'ils sont équipés avec un smartphone ou avec un ordinateur portable, vont recourir au Wi-Fi, alors parfois avec leur smartphone et leur ordinateur portable ouvert, connectés au Wi-Fi sur les réseaux sociaux, mais qui vont faire des consultations documentaires sur l'Internet gratuit de la BPI. Voilà.
S'il n'y a plus de remarques, d'observations ou de questions, nous allons enchaîner. Merci Christophe, merci Muriel.